des écrivains, une émission proposée par Christophe Onodibio.
Bonjour et bienvenue dans Le Temps des écrivains, le magazine littéraire de France Culture. Aujourd'hui, une émission placée sous le signe d'une forme littéraire qui est à la fois familière et aimée des amateurs de littérature qui s'y sont souvent essayés eux-mêmes, mais aussi, curieusement, un peu mésestimée, peut-être parce que beaucoup, précisément, s'y sont essayés, ou parce que peut-être on a considéré que cette forme, cette pratique, ce genre n'était que la partie immergée d'un grand œuvre en train de se faire, une doublure de l'œuvre, par exemple, romanesque d'un écrivain, ou un matériau de quelque chose de plus grand, de plus noble à venir. Ce genre, cette forme, c'est le journal, que nous allons explorer avec nos deux invités. Ils en sont deux des plus fameux représentants, Pierre Bergougnoux et Noël Herpe. Bonjour Pierre Bergougnoux.
Bonjour. Pardon.
Voilà, vous étiez en train de me parler de l'étymologie de ce nom, c'est passionnant, qui vient donc Bergougnoux.
Qui vient de vericundiosus, qui signifie en latin celui qui a de la vergogne, celui que la mâle honte retient d'agir inconsidérément.
Ça forme aussi un écrivain, le nom, le sens caché d'un nom.
Ça emporte toute une histoire qu'on peut se soucier de porter au jour, oui, oui.
Alors vous publiez chez Verdier le quatrième volume de votre carnet de notes que vous tenez depuis 1980 et qui couvre pour ce volume les journées qui se sont écoulées du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2015. Comme dans les précédents, il s'agit de sauver quelque chose de ce qui s'est passé en le fixant, en l'élucidant, pour mieux dire ce que c'est que, c'est votre expression, cette étrange affaire de vivre. Vous vous y faites dans ce carnet, Pierre Bergougnoux, le greffier de votre vie, en vous attelant à cette tâche énorme qui est la clarification de faits qui tourmentent votre présent, mais qui ont tourmenté aussi une jeunesse. À l'époque, vous n'aviez pas de réponse, faute, dites-vous encore, d'intelligence, d'expérience, de temps, de liberté, d'aide, de livres appropriés. De livres, il est donc question dans ce quatrième volume, Enfantine de Valérie Larbeau, beaucoup de Faulkner, Flaubert ou Sidérurgie française de Roger Biard. Donc il est question de livres, il est question aussi de la maladie, votre crainte, vos angoisses à l'idée de sentir votre cœur s'arrêter ou s'emballer. D'autant que l'âge, vous êtes né en 1949, se fait pesant, en tout cas dans vos lignes, pas du tout quand on est face à vous, Pierre Bergougnoux. On y trouve aussi des réalités aussi banales apparemment que l'état domestique, le repassage, les soucis de machine à laver, les retards du RER pour vous rendre aux Beaux-Arts où vous enseigniez à l'époque, la visite quotidienne à votre mère malade, les promenades chez les bouquinistes, les marchands d'art africains, les voyages entre l'Essonne et la Corrèze où se situe la maison familiale de votre épouse, épouse très présente et qui illumine des pages souvent assez sombres, épouse ou plutôt dites-vous demoiselle Manchou à laquelle vous rendez hommage parce qu'elle vous laisse stupéfait, ça c'est votre expression, je l'aime beaucoup, de vouloir bien souffrir depuis un demi-siècle votre triste voisinage. Alors Pierre Bergougnoux, j'aimerais savoir quel sens donner à ce titre de carnet de notes qui peut paraître un peu minimaliste, voire minimisateur, comme s'il s'agissait de feindre que cela n'a pas une si grande importance ou qu'il s'agit de notes en vue de quelque chose.
Le terme de journal me gêne un peu par ses connotation intimiste. J'ai ça en horreur. Inversement, j'ai toujours trouvé un intérêt extrême au monde, à la réalité, à mes semblables, à ce qui se passe. Je vais faire le professeur.
Vous tournez vers Noël Herpe, d'ailleurs, qui vous écoute.
Un logicien qui s'appelait Wittgenstein définit le monde comme ce qui arrive. Bon, le monde existe, il arrive sans discontinuer, ici même, à 7 heures. J'ai souvent été frappé tôt de ce que je n'avais pas été suffisamment attentif au fait, à l'événement. Et comme j'ai été nourri aux lettres, lorsque l'heure est venue, au seuil de la trentaine, j'ai pris ce parti de garder trace de ce qui se passait, avec l'idée que celui que je serai plus tard n'aurait pas de reproches à m'adresser, puisqu'il disposerait des minutes de ces instants qui avaient été les siens. Et qui constituait sa profondeur présente. C'est aussi simple que ça.
Et carnet de notes, le terme de notes, donc ce travail, c'est ce travail d'élucidation pour le futur Pierre Bergoglio ?
Oui, parce qu'il m'a semblé, là encore, assez tôt, que les choses n'étaient pas revêtues du caractère d'évidence que j'aurais souhaité, et tous, je suppose. Et ce travail écrit, il est important de distinguer catégoriquement ce qu'on dit de ce que, armé d'une plume, on porte sur le papier.
La table de peine.
La table de peine, et en même temps, cette acquisition décisive, c'est sans doute l'événement le plus important de toute l'histoire de l'humanité que constitue l'invention de l'écriture. Et tous les Français que nous sommes, tous les habitants des pays développés, ont aux mains cet instrument prodigieux qui permet de tirer au clair ce que la parole, de par sa nature fugitive, évanescente, est obligée d'abandonner à l'ombre, au mystère, aux ténèbres.
Mmh. Noël Herpe, vous êtes à la droite de Pierre Bergoglio, vous êtes en face de moi. Quand Pierre Bergoglio dit qu'il a l'intimisme en horreur, est-ce que vous le comprenez?
Ça me choque un peu. En même temps, je le comprends parce que son journal est un journal effectivement de la vie extérieure, de la vie matérielle,
de la vie. Le corps y est.
Ah oui, mais c'est pas un journal de la subjectivité catholique par exemple, comme celui de Julien Green, ou de protestante comme d'André Gide. Il y a pas cette exploration du moi à laquelle on a voué le journal depuis quand même un certain temps. Et c'est ça la modernité de votre journal finalement, c'est que vous vous interdisez d'être dans l'épanchement sentimental, dans l'auto-analyse, même dans le jugement d'ailleurs, parce que quand vous parlez des livres que vous lisez, vous dites pas c'est bien, c'est pas bien, il n'y a pas du tout de j'aime pas, ce côté qui peut être agaçant aussi dans certains journaux de un peu cancaniers, comme celui de Mathieu Gallet par exemple, ou de celui de Léoto. Donc là, il y a une espèce de rigueur dans cette manière dont vous ne donnez à voir que apparemment l'écume des jours, et en même temps vous montrez à travers ça votre être le plus profond, mais de manière par un détour, de manière indirecte, en parlant des paysages, en parlant de votre enfance, en parlant de votre femme en effet, en parlant de l'autre et non pas de vous. Et ça, je trouve ça très beau. Et effectivement, moi j'ai du mal à faire ça,
ben oui.
Je le reconnais très humblement, je ne sais parler
antipodes.
Que de moi.
Oui.
Je sais parler que
c'est
de moi.
C'est dans la tradition 19e, totalement.
Oui, c'est parce qu'une maladie, je n'arrive pas à sortir de moi-même, et en même temps, je crois avoir fait l'effort dans ce nouveau livre de sortir de moi pour essayer aussi d'aller vers le monde extérieur. C'est pour ça que je suis sensible à votre démarche, qui me paraît presque un modèle auquel j'essaye peut-être maladroitement d'atteindre.
Alors Noël Herbe, ça s'appelle « Objet rejeté par la mer », MER, c'est publié chez Gallimard dans la collection L'Arbalète, c'est votre journal des années 2014-2015. C'est un journal qui suit le journal d'un cinéphile, le journal En Ruine, qui a été publié en 2011, qui évoquait la mort du père, et qui suit aussi C'est l'homme, journal d'un film interdit. C'est un journal qui est structuré en quatre parties de longueur inégale, un journal du passé, puis un journal d'Edouard, qui est le jeune homme qui partage votre vie ou votre cœur, je vous laisserai définir ça tout à l'heure. Puis le journal d'ailleurs et le journal sans sujet. Alors, les deux premières sections, elles sont focalisées sur un thème, hein, le passé, examen des souvenirs de jeunesse, à Cancale notamment. Édouard, donc réflexion quotidienne sur la relation de l'auteur avec son jeune amant. Un petit mot quand même sur l'illustration de couverture, qui n'est pas du tout anodine, qui est tirée de vos archives personnelles. C'est une photo de vous à 2 ou à 3 ans, dans les bras d'une femme. J'aimerais que vous nous décriviez cette photo, Noël Herpe.
C'est une image qui est un peu mythique dans ma famille, figurez-vous, parce qu'elle était parue en couverture de la revue du planning familial dont s'occupait un ami de mon père. Donc c'est assez amusant. Et donc c'est une photo qui était célèbre dans ma famille. C'était un peu c'est la photo mythique de ma mère et moi, quoi. Ouais. En fait, c'est la photo de l'amour fusionnel absolu entre
un
enfant
et
sa mère. Et nous sommes sur une plage à Cancale, battue par les flots, si l'on peut dire, avec un petit personnage à l'horizon. Et cette photo est prise par mon père. Et pour moi, c'est l'image fixe, presque trop figée, presque trop parfaite du bonheur. Une image dont on a du mal à se guérir ensuite, peut-être.
Vous l'aimez, cette photo, Pierre Bergoglio?
Oui, parce qu'elle me rappelle mon adolescence. Le milieu des années 60, que je regarde comme les plus hautes de notre égir.
Ah, vous le dites comme ça?
Oui, ouais. Pas moins.
Et pourquoi était-elle les plus hautes? Qu'est-ce qu'il y a eu de si haut dans les années 60?
C'est une conjoncture d'exception. Ouais. C'est l'abondance. Ouais. Pour tous les gens de mon âge, l'an 1, c'est 65. L'abondance, ça y est. La modernisation. Je parle italien maintenant. L'aggiornamento intellectuel.
Oui, oui.
Des livres tous plus splendides les uns que les autres, qui se déversent sur nos têtes, sur nos cervelles, comme le contenu d'une corne d'abondance. Tout.
Cornucopia.
Oui. Quelques noms. Foucault sur les mots et les choses. Lacan, ses écrits. Barthes donne l'analyse structurelle du récit dans la revue Communication. C'est la sémantique structurelle de Julien Algirdas Grémas. Il aurait fallu ne dormir jamais, avoir 100 bras, 1000 yeux pour absorber cette abondance, ouais. ces prodiges qui nous étaient offerts sur un plateau non pas d'argent, mais d'or.
Être un hécatonchir, alors.
Oui, être hécatonchir, tout
c'est
à
pas
fait.
Mal.
Oui.
C'est pas mal.
Bravo.
Alors, nous alerte, donc il y a cette photo. Et puis, corroborant ou complétant la photo, il y a une étymologie à l'orée de ce journal. Herp, substantif féminin, au pluriel herp marine, matière, objet rejeté par la mer sur le rivage. C'est issu du trésor de la langue française. Mmh. Alors évidemment, on a envie de vous poser cette question. Ce journal, certes, la mer est présente, la mer de cette photo, mais c'est aussi le récit de la vie quotidienne d'un intellectuel parisien. Hein, la ville y est très présente. Sa vie mondaine, sa vie amicale, ses fantasmes, ce que lui évoquent des lieux, des objets, des rencontres, des souvenirs cinématographiques aussi. Vous avez choisi de ne mettre journal qu'en sous-titre, et vous avez choisi donc ce titre, Objet rejeté par la mer, qui renvoie donc à votre nom propre. Ça, on a l'impression que c'est plutôt le titre d'un premier livre, quand on s'aperçoit que son nom de famille a une telle portée littéraire, voire lacanienne. On en parlait de Lacan.
Oui, c'est d'une manière, une façon de se dire que on est déjà soi-même un texte, on est déjà soi-même contenu dans un mot qui vous résume tout entier, et c'est quand même assez fulgurant quand j'ai fait cette découverte, dont je parlais dans le premier tome paru de mon journal, le journal en ruine, il y a quelques années. L'objet rejeté par la mer, bon, je voudrais pas faire une analyse psychanalytique qui n'aurait aucun intérêt, mais il me semble
que la mer est là.
La mer est là, évidemment, et à la limite.
Les deux, d'ailleurs.
Et à la limite, bon, c'est pas la peine que j'en rajoute, c'est assez clair. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est ce thème de l'objet, au fond, c'est comment se défaire de sa subjectivité pour arriver à n'être qu'un objet, à se laisser glisser au fil des jours, des promenades, de regards sur la rue parisienne. C'est pour ça qu'à la fin, je vais dans les squares, je vais dans les cafés, je m'oublie, je m'anéantis, je m'annihile et je cherche. Il y a un peu dans ce que j'essaie d'écrire en ce moment, ce devenir objet, cette dépossession de soi-même à laquelle j'aspire et qui me paraît un début de la littérature. Et voilà, une forme de poésie peut-être qui peut être présente dans le journal, car je défends le journal comme une forme littéraire. Je crois pas du tout que ce soit une forme anecdotique et qu'on peut y trouver une sorte d'autre dimension des choses qui est presque un au-delà du langage à travers le quotidien.
Alors, quand on cherche une définition de la forme littéraire qu'est le journal, on trouve par exemple chez Michel Brault, hein, l'auteur de La Forme des Jours, pour une poétique du journal personnel, publié au Seuil en 2006, la définition suivante. Évocation journalière ou intermittente d'événements extérieurs, d'actions, de réflexions ou de sentiments personnels et souvent intimes, donnée comme réelle et présentant une trame de l'existence du diariste. Est-ce que cette définition vous convient, Pierre Bergougnaud ?
Oui, donnée comme réelle. Il pointe le fait essentiel qui est notre créance, la croyance que nous accordons ou non à des mots qui va à la proportion de ce qu'ils sont gagés sur ce qui n'est point eux. Et lorsque d'aventure un soupçon nous vient de ce qui ne renvoie pas au monde, alors instantanément, ils perdent toute espèce de saveur, de couleur, d'intérêt. Je vais faire le professeur et citer Hamlet, words, 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 c'est avec des mots.
Ouais.
Et les mots en tant que tels ne valent point. S'ils ont quelques significations, utilité, c'est à proportion de ce qu'ils renvoient au palpable, au tangible, au tragique mystère du monde auquel nous sommes affrontés.
Donner comme réel, donc cette expression, Noël Herp, elle vous semble aussi déterminante pour fonder ce genre qu'est le journal ?
Oui, c'est-à-dire que le journal est presque un apprentissage de la réalité. Comment arriver à se guérir de ces fantasmes ou de ces fantômes ou des représentations dans lesquelles nous sommes tous enfermés ?
C'est le même mot, hein, d'ailleurs, fantasme et fantôme.
Oui. Pour aller voir ce qui se passe autour de nous, quoi. Par exemple, je pense que c'est une expérience qui peut être à la fois traumatisante et en même temps déchirante dans le bon sens du terme, qui vous met en mouvement. Hein. Moi, j'ai gardé vous savez, j'ai fait un montage, hein, forcément. Je crois pas que Pierre Bergougnaud, je crois très honnêtement, garde presque tout ce qu'il écrit. Enfin, il garde des traces.
Presque ou
tout.
Oui, tout. Ouais.
Alors que moi, je fais du montage et j'avoue même aussi, à ma grande honte, que j'écris ce journal pour en faire un livre. Je n'écris pas de journal régulièrement. Je l'écris pour en faire un objet littéraire. Parce que je considère que c'est une forme en
la
soi.
La pratique n'est pas quotidienne, alors.
Elle est irrégulière, intermittente, et j'ai écrit ce texte dans l'intention d'en faire un livre. Et il est certain que, oui, il me semble que là, il y a une sorte de besoin pour moi de passer par le journal pour, à la fois cette dimension du mouvement. C'est-à-dire que j'ai gardé, dans le montage que j'ai fait après coup de ces textes, puisque j'ai relu tout et j'en ai fait une sorte de composition un peu musicale, un peu articulée, j'ai pas gardé tout, loin de là. Quelque chose qui m'a paru important de garder, c'est ce qui est en mouvement, ce qui vit. Et je crois qu'on le voit tout de suite quand on relit un texte, ce qui n'est que de la peau morte, ce qui n'intéressera personne, ce qui n'est que de la rumination obsessionnelle et solitaire, et ce qui bouge, ce qui avance.
C'est intéressant.
Il me semble que c'est un des enjeux du journal.
Vous dites ce qui n'intéressera personne. Pierre Bergoglio, quel lecteur vous attendez pour ces carnets, cette mise en mots du quotidien et du réel qui vous entoure? Dans quel état d'esprit aimeriez-vous être reçu? Je parle de réception littéraire.
À l'origine, j'étais mon propre lecteur, ou plus exactement, c'est ces versions ultérieures de moi-même qui m'attendaient là-bas dans l'avenir, se pencheraient sur l'épaule de celui que j'avais été avant pour éventuellement restaurer tel ou tel moment de la vie qu'ils continuaient de juger important et dont ils avaient une trace précise. Par la suite, j'avoue que la publication a brouillé un petit peu la perspective et que je me demande avec inquiétude parfois, mais qui peut trouver le moindre intérêt aux détails microscopiques que j'ai confiés au papier?
Moi, je me permets de dire que c'est effectivement quelque chose qui peut paraître surprenant à vous lire au début, c'est-à-dire ce côté extrêmement microscopique, la machine à laver, les préoccupations domestiques, les allers-retours, vos angoisses de santé, etc., qui a priori ne devrait pas être partageable. Et pourtant, il y a quelque chose de romanesque qui se dégage de votre livre. Il y a un récit à chaque fois. Un récit, une sorte de lutte contre la mort, d'affirmation de la vie, une sorte de compte à rebours, comme s'il fallait absolument rendre hommage à la vie malgré l'angoisse de la mort. Et c'est une sorte de lutte extrêmement intense. Enfin, quelque chose de très prenant pour le lecteur. Qui fait que ce livre ne se lit pas du tout avec ennui, au contraire.
Ah non, au contraire.
Au contraire.
Et on ne parle pas du style et de la prose.
Bien sûr,
magnifique,
il y a des évocations d'enfance qui sont magnifiques.
Quand il dit romanesque, Pierre Bergoglio, là pour le coup, ça contrevient à ce que vous disiez au départ ou non, sur cette présence du réel, donné pour réel, versus romanesque?
Non, pour le coup non, parce que d'une certaine façon, la vie est un roman, ou le roman, un miroir, comme disait l'autre, qu'on promène le long du chemin. Ouais. Nous sommes des agents graphiques, ce qui nous distingue catégoriquement de tous ceux qui nous ont devancés depuis la nuit des âges, jusqu'à la fin du XVe siècle, au début du XVIe siècle. Ce qui nous distingue catégoriquement d'eux, c'est cette capacité que nous avons d'abord de nous adresser à des absents par le truchement des livres, d'autre part de mettre hors de nous-mêmes, noir sur blanc, sur du papier, nos pensées. L'écriture permet à chacun d'entre nous de visualiser la parole et d'objectiver la pensée.
Est-ce que vous pourriez nous redire quand s'est passé, justement, vous parliez d'un brouillage tout à l'heure, quand avez-vous décidé de rendre public ces écrits personnels?
Eh bien, c'est d'une simplicité extrême, à savoir qu'on me demande du papier assez souvent et que j'étais vraiment à court de cartouches et à ce point mangé par le métier qu'avec la meilleure volonté, il m'était incapable de donner quelque chose à ça. Alors j'ai proposé quelques notes quotidiennes que j'avais prises à quelques mois de là. Et puis, de fil en aiguille, c'est tombé sous les yeux de mon éditeur qui a jugé qu'on pouvait mettre le tout en circulation, sous la presse.
Est-ce que vous avez été l'un et l'autre porté par des grands auteurs de journaux, que ce soit Amiel?
Il y a plusieurs traditions du journal. Il y a le journal comme recueil de maximes. C'est un peu le cas de Jean-René Huguenin qui met c'est un peu des sentences gravées dans le marbre. Et puis il y a le journal plus comme exploration du moi, Julien Green. Et puis il y a le journal vraiment qui me semble d'une certaine manière se rapprocher un peu du vôtre, et c'est quand même un grand exemple, c'est celui d'André Gide. Parce que il y a cette phrase magnifique de Gide qui dit « Qu'est-ce que finalement, quand je cherche le but du journal, c'est quoi ? C'est arracher quelque chose au néant. » Et Gide a quand même cette extraordinaire honnêteté de consigner jour après jour n'importe quoi qui lui arrive. Alors avec un regard très acéré, l'intelligence analytique qui était la sienne. Mais pour moi, c'est quand même le chef-d'œuvre absolu du journal. Parce que Gide est quelqu'un qui ne cherche pas à enfermer son journal dans une forme assise. Il est justement dans cette quête du mouvement. Il se contredit. Il va dans un sens, il va dans l'autre. Et c'est ça qui est beau dans le journal.
Cet objet rejeté par la mer doit beaucoup à Gide, à la lecture.
Non. Mais
parler de l'hérisse aussi. Par exemple.
Pour moi, c'est quand même ce qui est intéressant dans le journal, c'est qu'on peut, on peut dire dans le sens où je me donne le droit de me contredire et de pas être le même d'un jour à l'autre. C'est ça la beauté du journal.
Est-ce que vous avez été guidé, Pierre Bergogneau, par des grandes figures de diaristes, comme on le dit depuis les années 60, je crois?
Oui, si. C'est une tradition multiséculaire en France. L'éveil de notre littérature, c'est un peu sous ses auspices qu'il s'accomplit. Je pense à Montaigne. Montaigne est celui qui, le premier, prend acte de la naissance de cette chose extraordinaire qu'est le sujet conscient de soi, l'intériorité réfléchissante.
On va poursuivre avec vous, Pierre Bergogneau. Mais d'abord, on écoute votre choix musical. Vous avez choisi le scherzo du concerto numéro 4 de Littolf, au piano Misha Dichter, et c'est Philharmonia Orchestra, sous la direction de Neville Mariner. Scherzo du concerto numéro 4 de Littolf, c'est le choix de Pierre Bergogneau. Pourquoi ce choix musical?
Parce que j'ai entendu ça dans la 8e ou la 9e année de mon âge, à Brive-la-Gaillarde, qui est une sous-préfecture d'un département qui s'appelle la Corrèze, au conservatoire de musique que je fréquentais avec ennui. Je pense que c'était le jeune Philippe Entremont qui était en train d'interpréter cette pièce, ce morceau, derrière la porte de la grande salle d'audition à laquelle je n'ai pas osé toquer pour demander quel était le nom de l'auteur. Ce m'est resté une souffrance de plusieurs décennies que d'avoir entendu un jour quelque chose de si beau que j'étais en quelque sorte arraché à moi-même, jusqu'à ce que, en 2008, le 16 mars, à 2h30 de l'après-midi, sur le tronçon d'autoroute qui sépare Vierzon de Limoges, j'avais allumé la radio, je vois, si je puis m'exprimer de la sorte, l'archange musicien de mes 8 ans prendre place sur le siège du passager. Donc j'ai fait 2 ou 3 manœuvres un peu cavalières sur l'autoroute pour ne rien perdre de ce que dirait le présentateur lorsque le morceau aurait pris fin. J'ai donc su que c'était Littolf, ce concerto. Je l'ai noté sur mon papier. Et mon premier soin, après que je suis rentré à la maison, était de commander la chose. Et il me semblait que je libérais enfin une âme enfantine dans les sombres corridors du conservatoire de musique de Brive-la-Gaillarde, qui est en Corrèze, je vous le rappelle, de la peine à laquelle elle était condamnée. Vous savez tout.
Merci Pierre Bergogneau. Vous publiez donc chez Verdier ce quatrième volume de votre carnet de notes, votre journal, où vous nous donnez à lire la tentative d'élucidation de ce que vous appelez cette étrange affaire que l'on appelle vivre. La mort est là aussi dans ce journal, l'angoisse physique, le cœur qui se détraque, la mort d'une mère aussi, et toujours les lectures, l'étude, l'activité littéraire sur la table de peine, le tout dit dans une prose magnifique. Ce journal ouvre une période de 5 ans contre 10 pour les tomes précédents. Pourquoi accélérer la publication de vos carnets? Je me suis demandé, est-ce que c'était à mettre en lien avec l'angoisse diffuse mais omniprésente dans votre livre, l'angoisse vis-à-vis de votre santé?
Il y a très certainement cette raison de Jeanne d'Arc, je ne durerai pas, cité par Michelet.
Je me suis demandé s'il n'y avait pas une autre raison aussi, mais je me trompe peut-être en l'évoquant, c'est que, d'ailleurs c'est un point qui se retrouve dans vos deux journaux, qui couvre une période qui contient au moins un événement extrêmement secouant pour la nation, pour l'Europe, pour l'humanité tout entière, c'est la tuerie de Charlie Hebdo, puis les attentats du 13 novembre. Pierre Bergoglio, est-ce que vous accepteriez de nous lire justement cette journée en fait du 7 janvier?
Mercredi 7 janvier 2015, debout à 6h. Cathy quitte la maison une heure plus tard, dans la froide obscurité. Elle m'appelle au milieu d'après-midi pour me dire qu'elle vient d'apprendre ce qui s'est passé au siège de Charlie Hebdo et qu'elle en est complètement retournée. Ce matin, elle a dû quitter le RER à Bourg-la-Reine et rallier Cachan à pied à cause d'un suicide. Je couvre 3 pages sur les 5 livres de la bibliothèque idéale, celle qui aurait expliqué le petit monde que j'ai touché, pour commencer, et qui tirait une part de son pouvoir d'oppression, d'affliction, de rester opaque, impénétrable à l'esprit de ses habitants. L'attentat vient à peine de se produire à Paris lorsque je prends les informations de midi. On me parle de blessés, puis de morts, 10, 12. J'apprendrai en l'après-midi que Cabuet-Volinsky, Charb, Tignos, Berlamaris figurent parmi les victimes. Révolté par cette ignominie, à quelle source ténébreuse s'alimente cette imbécilité meurtrière, cette haine concentrée, inexpiable. Quels hommes, groupes, structures sociales sécrètent ces poisons? Quelle guerre nous livre-t-on sous les cagoules? Je n'arrive pas à réaliser que je ne découvrirai plus avec un bonheur intact, acide, juvénile, comme éternel, le dernier dessin de Cabuet ou de Volinsky. C'est fini, d'un coup. Avec la liberté de l'esprit, c'est notre jeunesse, ce qu'il en restait, que les assassins ont tué.
Quelle guerre nous livre-t-on sous les cagoules, écrivez-vous? Il y aura évidemment le 13 novembre qui suivra, où vous êtes beaucoup plus discret en fait sur l'événement, puisque votre mère meurt ce jour-là ou la veille. Mam nous a quittés et des fous furieux abattent les gens par dizaines dans les rues, notez-vous. Chez Noël Herp aussi, cet événement est présent. Il revient le 7 janvier dans des discussions justement animées, des débats aussi où vous provoquez les conversations autour de cette. Évidemment, les gens se sont déchirés autour de ces questions.
Oui, j'ai notamment un ami d'extrême gauche avec qui j'ai des discussions passionnées J'ai besoin d'en découdre symboliquement comme ça avec un partenaire. Mais c'est vrai que ce que j'essaie de montrer personnellement à travers la manière dont j'en parle, c'est le fait que c'est toujours de manière médiocre qu'on envisage l'événement. C'est toujours à travers ses propres passions et ses humeurs. Et puis on projette là-dessus sa vie privée, etc. Donc on a forcément de l'événement une vision totalement impure.
Et précisément, Pierre Bergoglio, puisqu'on vous a entendu lire le récit de cette journée du 7 janvier, quel est l'impact d'un tel événement historique dans l'écriture d'une vie qui n'est pas une vie historique, en tout cas pour vous? Vous ne vous dites pas, quand j'écris, quelle vie formidable, de grand chef de guerre, de grand inventeur. Enfin, je ne sais pas d'ailleurs si vous avez cette. Enfin, votre modestie, en tout cas, je pense, ne vous pousse pas dans ces retranchements. Mais justement, quel impact a un tel événement dans l'écriture d'un journal qui se veut proche du réel, mais qui se veut vraiment une consignation des petites choses qui sont fondamentales pour un être humain, mais qui ne se place pas sur le terrain de la grande histoire?
Eh bien, comme beaucoup de gens de ma génération, j'ai perdu l'espoir. Lorsque j'ai abordé la trentaine, il était évident que le socialisme réel, qui avait constitué un siècle durant l'espérance, le phare des nations, la mire des peuples, était condamné. Le chaos dans lequel nous sommes est imputable à l'incurie du Soviet suprême. Il a perpétré des crimes, il a commis des erreurs, et nous nous retrouvons dans un paysage dévasté face à cette résurgence de la barbarie dont je pense qu'elle puise aux mêmes sources. Il n'y a plus d'alternative, il n'y a plus réellement de choix entre d'un côté le capital financier et de l'autre cette espèce de résurgence des ténèbres du Moyen-Âge, du 8e siècle après Jésus-Christ.
Vous citiez Jeanne d'Arc tout à l'heure, mais est-ce que l'irruption d'un tel événement ne risque pas de souligner la... Je vais utiliser un mot très fort, mais la vanité, dans tous les sens du terme d'ailleurs, de l'écriture du journal d'une vie assez peu historique. Quand le réel percute à ce point, le réel historique percute à ce point, oui, la table de peine de celui qui, en Corrèze ou dans l'Essonne, parle de ses lectures, de Hegel, du repassage, de la machine à laver, puisque les objets, les activités banales sont très présentes aussi.
Oui. Il y a l'événement tel que le décriront lorsque tout sera fini les historiens, tel que le verront après coup ceux qui ne lui furent pas confrontés, qui ne s'y trouvaient pas mêlés. J'ai toujours présent à l'esprit, c'est ma deuxième et dernière concession de la journée au métier de professeur, une formule d'un immense philosophe allemand qui s'appelait Edmund Husserl, et qui, se tournant vers ses collègues, leur dit simplement ceci: « Tant que vous n'aurez pas rendu compte du monde effectivement éprouvé, vous n'aurez encore rien fait. » Cette chose abominable a eu lieu, s'est produite, je n'ai pas pu, comme chacun d'entre nous, n'en pas percevoir jusqu'au moelle l'abominable retentissement. Et en même temps, comme dit Rousseau, mes petites affaires courent, il faut s'occuper du linge, du repassage, et continuer de travailler à l'élucidation.
Alors, il est frappant à vous lire de voir l'attention que vous accordez aux gestes, voilà, leur passage par exemple, en apparence, ces gestes apparemment insignifiants du quotidien. Vous n'hésitez pas à mettre sur le même plan votre lecture de Hegel et vos ennuis de machine à laver. Jeudi 6 janvier 2011, par exemple, je lis Hegel en soirée au grand magasin d'électroménager des Ulysses pour commander un sèche-linge et une machine à laver. Au risque de laisser penser que dans une vie humaine, au fond, toute expérience se vaut. Est-ce qu'il y a chez vous la volonté de procéder à une réévaluation du banal? Et quelle importance accordez-vous justement à ce banal? Est-ce que c'est un adjectif d'ailleurs que vous prenez à la lettre ou rien n'est-il banal?
Eh bien, la première partie, au point où nous en sommes, de la phénoménologie de l'esprit de Hegel est consacrée au travail. Le monde repose sur le travail. Que nous cessions un seul instant de travailler, et tout va crouler. J'ajoute, j'ai toujours été et demeure un chaud partisan de l'égalité en partage, alors c'est pas la peine. J'ai vu et déploré lorsque j'étais enfant que les hommes, au sens étroit du terme, se réservaient la bonne part et abandonnaient à l'autre moitié du ciel l'esclavage domestique. J'ai posé que c'était quelque chose d'inadmissible, que moi vivant et... il ne serait pas question que je ne prenne pas ma part de la commune peine, et j'essaie d'être conséquent avec moi-même et d'agir selon ce principe.
Donc pas de réévaluation du banal, au fond on est dans le travail hegelien.
Une citation de 1963 tirée des Tontons Flingueurs. Je crois qu'elle tombe de la bouche de Jean Lefebvre.
Noël Herbe rit, le grand connaisseur du cinéma.
Elle doit tomber de la bouche de Jean Lefebvre. Les tâches domestiques ne sont pas sans noblesse. Ils sont en train de préparer les sandwichs pendant que les petits comiques dansent le twist dans le salon voisin.
Paradoxalement, peut-être, je me souvenais d'une citation de Jules Renard dans son journal du 19 avril 1899. « Je n'ai pas une tour, je n'ai qu'un carnet d'ivoire. » Est-ce que vous envisagez vos carnets, comme lui, comme un moyen de fuir le monde contemporain, de prendre de la distance avec vos semblables? Parce qu'on a l'impression, à vous lire, enfin pas seulement une impression, qu'il y a une grande lassitude vis-à-vis de vos contemporains. Vous dites par exemple, c'est l'expression un peu choquée, « Je quitte la maison à midi et demi, je ne supporte plus la jeunesse ». Vous, après une description très péjorative d'usagers du RER que vous croisez un jour, vous citez Shakespeare « Man delights not me ». De toute évidence, il y a chez vous un scepticisme vis-à-vis de la vulgarité, même une détestation d'un monde devenu vulgaire. Alors, est-ce que ce ne serait pas aussi le journal d'un misanthrope, ça, sa noblesse aussi? La misanthropie.
Passé un certain âge, on est tenté, comme Alceste, le personnage de Molière, de se coudre à l'épaule des rubans verts. C'est normal, je veux dire que le monde que j'ai habité, dont j'ai été le contemporain a basculé, disparu, et en vertu du principe d'inertie qui est consubstantiel à toute personne, personnalité, on ne peut que désapprouver ou réprouver des choses qui vont à l'encontre de ce qu'on nous a appris lorsque c'était notre tour de scandaliser les adultes par les horreurs que nous débitions âgés presque continués. Oui, c'est comme ça. À tout le moins, j'ose croire que j'en suis conscient, que j'ai une idée assez précise et assez regrettable de l'assez triste personnage que je puis composer en société.
Étourdi comme chaque fois par le spectacle de mes semblables, la société des vivants, dont j'ai pris congé ou peu s'en faut, voilà 45 ans pour celle des livres. Alors,
il y a du Jean-Jacques Rousseau. Hein.
Non, exactement, exactement. Et aux antipodes de ça, il y a par exemple quand vous évoquez votre petite fille, Sarah, donc un bébé, vous décrivez votre inquiétude parce qu'elle refuse de boire et de manger. Puis vous écrivez ça, c'est le 20 juillet 2014. La vie recommence. Elle est l'envoyée de l'âge neuf qui a supplanté celui insensible dont nous aurons été les ultimes représentants. Nous avons vu, si peu que ce soit, l'univers villageois, les bœufs virgiliens, entendu le patois et la dernière représentante en date de la lignée a pris en un an l'avion, le TGV, le RER. Elle s'escrimera, bientôt sur un ordinateur, aura un portable, consultera Internet. En attendant, je lui montre les fleurs de Cathy sous la fenêtre de la grande cuisine, les ferrailles dans la resserre à bois. Est-ce que c'est aussi ce monde qui finit, ce monde qui se termine, que vous consignez, et pas seulement les avatars de Bergugnou?
Est-ce qu'il y a lieu de distinguer entre le monde qui finit et les avatars de Bergugnou? Je suis l'enfant de mon temps, comme vous. Alors, l'êtes du vôtre.
Je vais vous répondre que parfois, des gens décrivent un monde finissant parce que eux-mêmes sont en train de finir et voudraient que le monde s'arrête avec eux. En l'occurrence, là, le monde, vous en avez la conscience qu'il continuera après vous et à travers Sarah.
Si je peux me permettre, ce que je trouve très frappant dans votre texte, c'est que c'est pas du tout un texte nostalgique. Vous n'êtes jamais dans le côté c'était mieux avant, c'était à ma jeunesse, etc. C'est plutôt une persistance de l'être. Vous essayez de sauver un être qui persiste à travers les avatars, justement, du monde moderne, de certaines vulgarités, des allers-retours en RER, etc. Mais vous cherchez à préserver votre être à travers la contingence. Mais en vous enfonçant dans la contingence. C'est une sorte de traversée du désert.
C'est assez bien dit, non?
Il a tout dit. Noël R, pas tout dit.
Vous tenez ce journal le matin, Pierre Bergugnou?
Oui, très tôt. Ouais, ouais. La nuit agit comme un filtre, elle permet de distinguer dans les péripéties de la veille ceux dont la signification excède très légèrement la durée de la journée et peut éventuellement intéresser celui qu'on sera la semaine suivante, ou à 5 ans, ou à 10 ans, si tant est que je puisse aujourd'hui jongler avec des chiffres pareils.
Tous les aspects de votre vie, presque tous les aspects de votre vie sont rendus par les mots sur les pages de ce carnet de notes, Pierre Bergugnou. Vous parlez de vos activités aussi de sculpteur, de ferraille, de votre passion pour les arts primitifs, d'un travail que vous faites avec le peintre, j'aime beaucoup ce peintre, Philippe Cogné, aussi. Vous parlez de votre compagne, Cathy, que vous appelez fée de mon adolescence ou demoiselle Manchou. On sait qu'elle a une passion pour l'horticulture, on apprend qu'elle a aussi des soucis de santé. Et paradoxalement, je vais vous poser la question, vous restez très pudique en fait à son sujet, et par exemple toute la question, vous disiez à l'orée de cette émission que l'intime, vous l'aviez vraiment en horreur. Tout ce qui fait la vie physique, vous en parlez pour vos soucis de santé, le cœur, les pressions dans la cage thoracique, mais tout ce qui relève par exemple de l'amour, du désir physique...
Par exemple, le plaisir de la table n'est pas très présent.
Voilà, ou le plaisir de la table...
Il se
désigne, je dis pour les auditeurs, il désigne sa silhouette affûtée, Pierre Bergugnou. Non mais les plaisirs de la table, les plaisirs de la chair sont mis à distance, pourquoi?
Parce que j'ai autre chose à faire. Que vous dire? Je mange une pomme de terre à l'eau, un bout de fromage, et puis je reviens à la table de peine, parce qu'il y a là infinité de choses qui attendent dans la pénombre d'être tirées en pleine...
Oui, mais le corps d'une femme, par exemple, le corps d'une femme aimée.
Oui.
Les caresses, l'épiderme, la chevelure, toutes ces choses-là ne sont pas... très très présente dans ce journal.
Non, il n'y a pas besoin.
Et là, c'est pas trop intime, justement.
C'est pas la pomme de terre à l'eau, là. On est dans quelque chose.
Non, effectivement, c'est un tout autre registre. Ouais. Mais le sérieux de la vie est ailleurs. Enfin, je veux dire que la sorte d'existence qu'on m'a faite et aux gens de ma sorte nous a obligés, le moment venu, à concentrer toute notre attention sur un certain nombre de choses qui nous étaient douloureuses à proportion de ce qu'elles étaient mystérieuses. J'appartiens à une région où on parlait encore occitan. Dès qu'on s'écartait un petit peu de la sous-préfecture, on avait dans l'oreille ce très antique dialecte qui signifie en gros ceci, que ceux qui le pratiquaient n'avaient aucune espèce d'accès au faste, aux clartés, au prestige de la culture lettrée. Donc, les gens comme moi étaient condamnés à étudier, à lire, non pas seulement pour leur temps, mais pour celui d'hier et en vue de demain.
Mais là, je ne vous parle pas seulement de culture, je vous parle de corps.
Oui.
Je vous parle de corps désirant.
Oui.
Puisque le corps souffrant,
oui,
vous le décrivez.
Oui.
Vous pourriez dire aussi, au fond, c'est pas important, on reste dans la cèse, l'observation du réel, et au fond, je gomme mes sensations.
Mmh.
Or, quand votre cœur vous fait mal, quand la cage, votre cage thoracique est opprimée, vous le décrivez sur votre table de peine.
Oui.
Mais tout le côté glorieux du corps,
vous,
c'est absent.
Oui, parce que les ennuis cardiovasculaires empêchent qu'on puisse faire ce qu'on veut, ce qu'on doit, pour ce qui me concerne, tente à se confondre. Le reste, les plaisirs de la chair, de la table, ça ne vient pas en travers du chemin, voilà.
Ouais.
Un autre plaisir, excusez-moi, que vous interdisez, un plaisir qui est fréquent chez les diaristes, c'est celui du portrait, voire de la médisance, etc. Il n'y a jamais ça chez vous. C'est-à-dire que vous parlez d'un livre que vous avez reçu, vous en parlez d'une manière, toujours sous l'angle de la pensée.
Oui.
C'est toujours, vous voulez maintenir la liberté de votre pensée,
et
non pas vous laisser entraîner par des petites considérations anecdotiques, qui pourraient vous apporter, ou du moins apporter au lecteur un certain plaisir coupable. Mais ça, vous le refusez.
Oui.
Mais vous aussi, Noël.
Oui. Et pourtant, j'en suis bien capable.
Voilà.
Mais off record.
Je
considère que la littérature mérite mieux que ça.
On va en parler de cet objet rejeté par la mer. C'est votre journal Noël Herbe. C'est publié à l'Arbalète. Enfin, dans la collection L'Arbalète chez Gallimard. Vous avez choisi comme choix musical Bella Figlia dell'Amore. Donc, c'est un extrait de l'acte 3 de Rigoletto, de Verdi, évidemment. Dans la version dirigée par Tullio Serafin avec Maria Callas.
Vieni a senti del mio cuore il frequente palpito.
Filia dell'amore, pardonnez l'accent, c'est l'extrait de l'acte 3 de Rigoletto de Verdi, dans la version dirigée par Tullio Serafin, avec Maria Callas. C'est le choix musical de Noël Herbe, qui publie Objet rejeté par la mer, dans la collection L'Arbalète, chez Gallimard. Son journal, votre journal, Noël Herbe, 2014-2015. Vous êtes avec Pierre Bergougnou, qui est à votre gauche. Il est question de journal depuis le début de cette émission. Pourquoi ce choix musical, Rigoletto?
En fait, moi je suis un grand fan d'opéra et aussi d'opérette, figurez-vous, ce qui ne saurait vous étonner, connaissant mon côté un peu vieille France par moment.
Vous vous dites, j'aime cette culture de droite, d'ailleurs.
J'aimais cette culture de droite quand j'étais enfant.
Catholique.
Aujourd'hui, je me considère pas vraiment comme un homme de droite, mais j'ai été très formé par ça. J'étais un grand amoureux de Mauriac, de toute cette génération d'écrivains, et ils m'ont appris à écrire, ils m'ont appris à aimer l'écriture, en tout cas.
Étant un grand spécialiste du cinéma expérimental, engagé plutôt à gauche, d'ailleurs.
Disons par exemple, j'ai travaillé sur Romère, qui est quand qui reste quand même un cinéaste catholique et finalement assez proche de ce territoire. Mais c'est vrai que j'ai pu aller vers une certaine modernité cinématographique par ailleurs. Pourquoi vous me demandez pourquoi j'ai choisi ce morceau? Bah, en fait, parce qu'il est revenu un peu dans ma vie à la faveur de mon compagnonnage avec ce garçon, Edouard, qui peint toute la journée. Et donc, nous avons emménagé ensemble dans un endroit dans le 11e arrondissement. Et il a son atelier où il peint toute la journée des portraits de femmes, de divas, de femmes qu'il admire, comme Edmond Charleroux, comme Sappho, comme des personnages comme ça un peu flamboyants qui font partie de son panthéon. Et il aime les divas en peinture, mais il les aime aussi dans l'opéra. Et donc, il écoute toute la journée en peignant, ce que moi, je trouve extraordinaire, parce que je suis incapable d'écouter de la musique quand j'écris, ou d'entendre le moindre bruit me dérange, mais lui,
c'est votre cas aussi, Pierre Bergoglio?
Exactement pareil.
Aucune, voilà, à la table de peine, point de musique.
Ouais. Alors ça donne lieu à des disputes homériques, parce que parfois je m'énerve, parce que j'entends quand même à travers la cloison cette musique flamboyante, et donc parfois on s'engueule à ce sujet, mais c'est vrai que ça finit quand même un peu par me bercer, et par bercer mon écriture, et cet air notamment, La Figlia d'Amore de Rigoletto, où le bouffon montre à sa fille que le duc de Mantoue la trompe avec une autre femme, et il y a cette espèce de déchirement des passions, je l'entends presque en boucle en ce moment. Donc j'ai eu envie de faire un clin d'œil à ce quotidien qui est le mien.
Édouard, très très présent dans l'objet rejeté par la mère.
Mais c'est aussi le rapport à la théâtralité qui est une chose très importante chez moi, le goût de ce théâtre romantique, de cet opéra flamboyant, etc., qui est quelque chose qui a marqué mon adolescence, ce goût du pathos, ce goût des situations, et j'essaye d'en retrouver un peu quelque chose à travers mon écriture, sous une forme peut-être un peu dégradée, la manière dont on peut finalement tous les jours voir autour de soi des scènes de théâtre, des situations, des moments que j'essaie d'isoler, des choses que je vois dans mon immeuble, dans la rue, etc., et qui tout d'un coup viennent reconstituer un théâtre.
Vous disiez que vous aviez procédé à une forme d'élimination de certains passages écrits pour ne garder que les éléments qui allaient pouvoir fabriquer constituer ce livre que vous vouliez publier. Il ne s'agit pas d'un journal qui accidentellement arrive à la publication. Il y a une volonté, vous l'avez expliqué tout à l'heure. Comment vous le définiriez, ce nouveau journal, par rapport à ceux qui l'ont précédé? Parce qu'on citait, il y a le journal d'un cinéphile, journal en ruine, journal d'un film interdit. Quels sont les questionnements que vous menez désormais et qui seraient nouveaux par rapport aux autres journaux?
J'avais commencé en fait par, je dois le dire franchement, j'avais commencé par faire un journal du passé. C'est-à-dire que j'avais décidé d'écrire un peu dans vrac, comme ça, tout ce qui me passait par la tête, des souvenirs en désordre. Et j'ai présenté cette première version à mon éditeur qui m'a dit, non, faut continuer, parce qu'il y a un fil rouge à tirer, c'est Edouard, c'est le présent, c'est d'une certaine manière la manière dont tu émerges de ton passé, dont tu te sors un peu de ces obsessions pour aller vers autre chose.
Donc c'est une construction.
Et c'est une construction que j'ai faite en décidant justement de raconter pour la première fois mon présent, car finalement je ne l'avais pas fait en tant que diariste. J'avais fait le journal en ruine qui était un recueil d'archives de mon journal, et un journal extrêmement tourné vers l'obsession du passé, de la mort, des écrivains, des acteurs, etc., que j'aimais quand j'étais, donc ça avait un côté quand même assez... un peu triste, un peu... Ensuite, j'ai fait le journal d'un film interdit qui était la chronique rétrospective d'un tournage, journal d'un cinéphile qui était un recueil d'articles, donc c'est plutôt le journal au sens journaliste, puisque j'ai aussi été journaliste, et il y a aussi cet autre sens du mot journal. Là, pour la première fois, j'appréhende le présent. Donc c'est une sorte de conquête du présent qui se fait petit à petit, que j'ai fait ça de briques et de brocs, sans trop savoir où j'allais, ce que j'allais raconter.
Mais pourquoi appeler ça un journal?
Après coup, par le montage, ça devient quand même un récit. C'est ça qui m'intéresse.
Dans une époque où les gens appellent tout roman ou récit, pourquoi tenir à ce point alors que c'est du montage, vous l'avez dit, au terme de journal? Parce que Pierre Bergoglio ne retranche rien. Et l'activité est quotidienne ou quasi quotidienne, toujours le matin. Vous comprenez, Pierre Bergoglio, ce montage dont parle Noël Herbe, est-ce qu'on est encore dans le journal d'ailleurs, selon vous?
Oui, en vertu du principe que vous avez énoncé tout à l'heure, à savoir ceci est réel.
Donné pour réel.
Oui, et donné pour réel. Au lieu que lorsque j'ai un roman aux mains, il s'en faut d'un rien à chaque fois que la croyance en la réalité de ce qui m'est dit me se brise, et alors le livre me...
Oui, mais aujourd'hui, on parle beaucoup d'autofiction.
Oui.
Par exemple, ce terme-là, finalement, qu'est-ce qui sépare pour vous l'autofiction du journal, si ce n'est le séquençage en journée?
Le contrat de réalité, effectivement. C'est-à-dire dire au lecteur, c'est arrivé, et là, il n'y a absolument aucune possibilité de croire que ce n'est pas arrivé.
Mais l'autofiction aussi, il y a ce pacte autobiographique.
Quand je lis un livre de Christine Angot, je peux me dire qu'elle fabule ou elle brode sur certains points, et c'est tout à fait son droit, puisqu'elle a décidé de s'attaquer à ce registre qui est un peu hybride, un peu flottant. Le journal, il y a un pacte de vérité. Je crois que c'est ça qui est très important. Et puis, effectivement, le séquençage, effectivement, le fait que la journée du lendemain vient apporter quelque chose de nouveau, etc. Et cette soumission au temps. Pour moi, c'est la seule manière dont je peux écrire, parce que je suis quelqu'un qui suis incapable de faire un plan, de faire un programme, de me projeter.
Dans le récit, oui.
Réfléchir à quelque chose que je pourrais raconter, ça me terrifie d'avance. Donc, c'est une discipline qui m'aide beaucoup. Et en même temps, je n'arrive plus personnellement à croire à la fiction. Quand je lis des livres de fiction, notamment français, ça, j'y crois pas. Et j'ai l'impression qu'on ne peut justement faire ressurgir que des fantômes de fiction, des bribes de fiction, des micro-fictions, grâce à cette pratique de journal, mais où j'essaie quand même, de manière peut-être un peu perverse, un peu perfide, de glisser du roman.
Pour vous deux, le genre du journal est un genre en soi définitif, puisque c'est vrai que quand on a dit que certains journaux d'écrivains n'étaient au fond que le matériau d'une œuvre à venir, j'en parlais en introduction, de notes, d'observations. Quand vous dites carnet de notes, d'ailleurs, Pierre Bergougnon, on pourrait se dire, vous l'avez expliqué, hein, ce sont des notes pour vous-même, pour élucider celui que vous étiez à un moment donné, mais on pourrait se dire aussi qu'il s'agit de notes pour en vue d'un roman, puisque vous écrivez aussi des romans. Ce n'est pas le cas ?
Non. Non, ce sont deux choses. À la limite, la distinction serait d'ordre chronologique. Dans des romans qui sont en vérité des récits avec un fond de réalité particulièrement important, c'est deux choses qui sont passées avant ou ailleurs qu'il est surtout question. Alors que c'est de celui auquel mon destin est rivé actuellement qu'il est question dans les pages du carnet de notes.
Et vous, Noël Herbe, ce ne sera pas le matériau d'un prochain roman.
Tout.
Vous
non.
dites que vous êtes tétanisé par cette idée d'ailleurs du roman. Ouais.
Non, pour moi, ce n'est pas un laboratoire pour une œuvre à venir. Non, c'est l'œuvre elle-même, en fait.
Alors on va vous écouter lire un extrait de cet objet rejeté par la mer. MER, qui est la définition de herpe au pluriel. Hein.
Ce que j'ai découvert donc dans le trésor de la langue française. Donc 5 novembre 2014. Hier soir, je parle avec un ami de mon sentiment d'avoir fait le tour. Le tour de mon autobiographie, de mon tas de secrets. Qu'est-ce que j'ai d'autre à raconter en fin de compte que la perte du lien avec ma mère, que tous mes efforts pour restaurer un passé plus ou moins mythique. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire que la nostalgie de ce lien et l'impossibilité de le renouer. De plus en plus, j'ai la tentation de m'évader de ce théâtre intime pour regarder ailleurs, pour mettre en scène le monde extérieur. Pour m'aventurer, par exemple, sur un terrain polémique où j'aurais à défendre bien des positions non conformistes. Ou, pourquoi pas, pour me confronter au récit. Ce défi que je me suis toujours interdit. Et dont j'ai pourtant mesuré, en écrivant une biographie, que je n'étais pas indigne de le relever. Alors que nous parlons de tout cela, je lis un message d'Edouard qui, grisé par une coupe de champagne, entre deux trains, me fait l'éloge du mouvement, m'invite à ne pas rester figé devant mon ordinateur comme je le suis toute la sainte journée, et à bouger. Ce sont des mots de jeune homme, bien sûr, mais ils s'accordent à mon impatience, à ce désir que j'ai de renouveler mon répertoire. L'autre, écrivait Baudrillard, est ce qui me permet de ne pas me répéter à l'infini. L'autre, c'est peut-être tout simplement ce que j'aimerais surprendre dans ces pages. Le pur présent, débarrassé de mon éternelle obsession de prévoir ou de regretter.
Vous dites le pur présent et non pas le pur réel, qu'aurait pu dire Bergoglio.
Non, le pur présent, pour moi, c'est très difficile parce que je suis tellement obsédé par le passé et tellement en même temps dans une volonté de prévoir tout ce qui va m'arriver, mais je crois que ça va souvent ensemble chez les obsessionnels, que accueillir le présent et se laisser déborder par le présent, lâcher prise, laisser le présent vous envahir, c'est la plus belle chose qui puisse m'arriver finalement. Et c'est ce que j'essaie de raconter dans certaines pages de ce journal, c'est des épiphanies en quelque sorte. Et pour moi, c'est pas évident. C'est la littérature qui me permet d'aller vers ça, parce qu'au fond, la littérature est une discipline de vie aussi, elle vous force à regarder des choses que vous ne regarderiez pas sans elle.
Une question qui s'adresse à vous deux, Noël Herbe, après Journal en ruine. Journal en ruine, en fait, s'achevait par le récit de la mort de votre père. Objet rejeté par la mère se focalise, lui, davantage sur la personne de votre mère. L'illustration de couverture, on en a parlé à l'orée de cette émission, suggère une correspondance entre la mère MER, la mère MERE, et page 106, vous évoquez un jeu de miroir avec la mère dont on ne guérit pas. La figure maternelle est jugée assez sévèrement, quand ma mère ne revenait pas, des adultères aussi, la mention du père cocu, du mari trompé. Et inversement, vous la montrez parfois en figure complice, de façon très, très drôle. Par exemple, vous utilisez l'invalidité de votre maman comme un coupe-fil pour une exposition au musée d'Orsay. Est-ce que les proches qui sont cités dans ce journal l'ont lu et approuvé ? Est-ce que vous ne pouvez pas leur cacher, puisqu'ils peuvent le trouver en librairie, mais est-ce que vous en parlez de ça ? Écoutez, avec eux.
Oui, la première personne qui l'a lu, c'est bien sûr Edouard. Il l'a lu avant parution et j'étais un peu inquiet de son jugement. Mm. Écoutez, je crois qu'il n'a pas été forcément très convaincu par l'image que je donne de lui, parce que je ne donne qu'une image avec un côté un peu cubiste, parce que c'est un personnage un peu justement la Albertine, qui s'enfuit, qui revient, qui montre des aspects différents de lui-même. Mais ce n'est forcément qu'une image ou des images. Donc forcément, quand on se retrouve dans un journal, on n'est pas toujours content de se retrouver un peu comme ça, réduit à une dimension qui n'est pas celle qu'on perçoit soi-même.
Oui, et puis on ne peut pas utiliser l'alibi du roman en disant, écoute, c'est un roman, c'est pas le réel. Donc,
c'est ça.
Il y a une part de risque énorme, Pierre Bergogni aussi, dans le journal.
Oui, c'est risqué. Ouais. Pour tous. Ouais. Aussi bien pour celui qui s'engage personnellement dans la description d'un état de choses, que pour ceux qui se trouvent, le moins un peu pédant, objectivés. Le fait de se trouver cloué en quelque sorte sur la page comme un insecte sur un...
Comme un carabe. Hein, je pense à ces insectes que vous collectionnez.
Oui.
Votre femme lit ce journal ?
Non.
Elle n'a pas la curiosité de...
Non, elle ne veut rien savoir de ce que j'ai pu dire pour ce qui l'a concerné. Ouais. Ce que je comprends parfaitement.
J'ai une dernière question, messieurs, à vous poser. En fait, je relisais ce matin... en préparant cette émission, la préparation du roman sont les cours au Collège de France de Barthes, qui parle de Proust et notamment d'une lettre de Proust à son ami Guiche. Je cite Proust. Surtout, ne prenez pas la peine de me répondre, parce qu'en fait, ils s'écrivent. Pour un peu, ce serait un commencement de correspondance suivie, chose affreuse, ce qu'il y a de pire après écrire son journal au jour le jour. Pour Proust, dit Barthes, le journal était purement circonstanciel. Est-ce que ça vous étonne, cette saillie proustienne contre la forme, le genre du journal ? Valère.
Oui, parce que... Oui, non, ça m'étonne pas. Au contraire, parce que comme le montre bien de Jérôme Picon dans une très belle biographie de Proust qui vient de paraître, Proust construit son œuvre à travers non pas son journal, mais sa correspondance. Donc toute l'œuvre de Proust est présente en mots, elle est transposée, transfigurée, métaphorisée, déjà à travers la correspondance. Donc le journal, elle n'est que projection vers l'œuvre. Mmh. La démarche de Proust, elle est tension vers l'œuvre. Alors, or le journal est une sorte d'équilibre instable entre la vie et l'œuvre, qui garde toujours cette ambiguïté.
Pierre Bergogniou, ce qu'il y a de pire après écrire son journal au jour le jour, qui est donc le pire du pire.
Ça n'engage que Proust.
Eh bien, très bien. On se quittera sur cette phrase-là. Merci à tous les deux. Merci Pierre Bergogniou d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que vous publiez donc Carnet de notes 2011-2015 chez Verdier. C'est donc le quatrième volume de votre journal. Merci à vous.
Merci à vous.
Noël Herpe, merci d'avoir participé à cette émission. Je rappelle aussi le titre de votre journal, Objet rejeté par la mer, avec cette magnifique photo de vous dans les bras de votre mère dans les années 60. Donc l'apogée de notre égir, selon la définition de...
L'an
1 de notre régie, selon la définition de Pierre Bergogniou, c'est à l'Arbalète chez Gallimard. Merci beaucoup Noël Herpe.
Merci Christophe.
Raconterez-vous cette émission dans vos journaux respectifs ?
Pierre Bergogniou, je suis sûr qu'il va la raconter en détail.
Forcément, je prends note de ce qui se passe et à un certain moment je me suis retrouvé avec le petit Herpe et le petit Onodivier.
Et vous Noël Herpe ?
Vous me rajeunissez, c'est
peut-être vous retranchez.
Si elle suscite ma rêverie, oui.
Très bien, à vous lire alors. Merci messieurs, le temps des écrivains, c'est Avril Ventura, Anne-Laure Chanel et Michel Mestre à la technique. Vous pouvez nous suivre et commenter sur Facebook et Twitter, podcaster pendant un an et réécouter pendant 1000 jours sur franceculture.fr. Cette heure consacrée au journal et à leurs journaux, avec Noël Herpe et Pierre Bergogniou. Merci encore, je vous retrouve dès lundi pour un autre journal, presque, Le Temps des libraires à 10h55.